Le sixième jour après leurs adieux au roi, ils traversèrent un bois qui descendait des collines au pied des montagnes de brume, défilant à présent sur leur droite. Au coucher du soleil, tandis qu'ils ressortaient en pays découvert, ils rattrapèrent un vieillard appuyé sur un bâton, vêtu de haillons de couleur grise ou blanc sale, avec un autre mendiant qui traînassait derrière lui en gémissant.
« Ô Saruman !» dit Gandalf. « Où vas-tu donc ?»«
Que t'importe où je vais ?» répondit-il. « Veux-tu encore dicter mes allées et venues, et n'es-tu pas satisfait de me voir en disgrâce ?»«
Tu connais les réponses, » dit Gandalf. « Non et non. Mais dans tous les cas, le temps de mes labeurs tire aujourd'hui à sa fin. Le roi a repris le fardeau. Si tu avais attendu à Orthanc, tu l'aurais vu, et il t'aurait montré sagesse et clémence.
« Raison de plus pour être parti avant, » dit Saruman, « car je ne désire de lui aucun des deux. En fait, si tu souhaites une réponse à ta première question, je cherche à quitter son royaume par le chemin le plus court.
« Eh bien, tu te diriges encore du mauvais côté, » dit Gandalf. Et ton voyage me semble voué à l'échec. Mais dédaigneras-tu notre aide, car nous te l'offrons.
Vous me l'offrez, dit Saruman. Non, épargne-moi ce sourire de grâce. Je préfère tes froncements de sourcils. Quant à cette dame ici présente, je ne lui fais pas confiance. Elle m'a toujours détesté, non contente de comploter en ta faveur. « Je ne doute pas qu'elle vous ait amené ici pour mieux se réjouir de mon indigence. Si j'avais su que vous me poursuiviez, je vous aurais refusé ce plaisir. »«
Saruman, » dit Galadriel, « nous avons d'autres affaires et d'autres soucis plus urgents que de courir après vous. Dites plutôt que la bonne fortune vous a rattrapé, car voici qu'une dernière chance vous est offerte. »«
Si c'est vraiment la dernière, » « J'en suis reconnaissant, » dit Saruman, « car cela m'évitera de devoir encore la refuser. Tous mes espoirs sont anéantis, mais je ne veux aucune part des vôtres, si vous en avez. »
Ses yeux flamboyèrent un instant.
« Allez-vous-en, » dit-il. « Ce n'est pas en vain que j'ai longuement étudié ces questions. Vous vous êtes condamné et vous le savez. » Et je trouverai quelque réconfort dans mes errances à songer que vous avez démoli votre propre maison en saccageant la mienne. Et maintenant, quel vaisseau pourrait vous emporter au-delà d'une si vaste mer ?
Fit-il moqueur.
Un vaisseau gris, tout plein de fantômes. Voilà lequel !
Il rit, mais sa voix était cassée et son rire affreux.
« Lève-toi, bougre d'idiot !»
cria-t-il à l'autre mendiant qui s'était assis par terre, et il le frappa avec son bâton.
« Demi-tour ! Si ces illustres personnes vont sur le même chemin que nous, nous en prendrons un autre. Dépêche, ou t'auras pas de croûtons pour souper !»
Le mendiant tourna les talons et se traîna devant eux en gémissant.
« pauvre vieux Grima, toujours battu et injurié, ah, que je le hais, que je voudrais pouvoir le laisser. »«
Alors laissez-le, » dit Gandalf.
Mais Langue de Serpent, les yeux voilés et remplis de terreur, ne lui jeta qu'un regard fuyant avant d'emboîter le pas à Saruman. Puis, les deux misérables passant la compagnie, arrivèrent au Hobbit et Saruman s'arrêta pour les dévisager. Mais ils le regardèrent avec pitié.
Ainsi vous êtes venus plastronner, vous aussi, mes galopins, dit-il. Les besoins d'un mendiant ne vous importent guère, n'est-ce pas? Car vous avez tout ce qu'il vous faut, de la nourriture, de beaux vêtements et la meilleure herbe pour vos pipes. Si, si, je le sais. Je sais d'où il vient. Vous n'auriez pas une pipée pour un nécessiteux, non?
« Je vous en donnerais si j'en avais, » dit Frodo.
« Je vous offre ce qui me reste, » dit Merry, « si vous voulez bien attendre un moment. »
Il mit pied à terre et fouilla dans le sac qui pendait à sa selle. Il tendit alors une blague de cuir à Saruman.
«
Prenez tout ce qu'il y a, je vous en prie, dit-il. Cette herbe vient des épaves d'Isengard.
La mienne, oui, c'est la mienne, chèrement payée en plus,
s'écria Saruman, saisissant la blague d'une main.
Ce n'est qu'un remboursement pour la forme, car vous en avez pris plus, j'en suis certain. N'empêche qu'un mendiant doit se montrer reconnaissant si un voleur daigne lui remettre ne serait-ce qu'une parcelle de son bien. Et puis, ce sera bien fait pour vous quand vous rentrerez, si vous constatez que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez dans le quartier sud de votre pays. Puisse-t-il rester longtemps à court de feuilles ?
Trop aimable, dit Merry. Dans ce cas, je vais reprendre ma blague qui ne vous appartient pas et qui m'a accompagné dans de longs voyages. Enveloppez l'herbe dans un chiffon à vous.
À voleur, voleur et demi, dit Saruman.
Et il tourna le dos à Merry, donna un coup de pied à Langue de Serpent et s'enfuit vers le bois.
Eh bien, voyez-vous ça, dit Pipin. Voleur, mon œil ? Quid de nos doléances pour avoir été assaillis, brutalisés et traînés à dos d'orques à travers le Rohan ?
Ah ouais, fit Sam. Et payé, qu'il a dit. Comment, c'est ce que je me demande. Et j'aime pas trop ce qu'il disait du quartier sud. Il est temps de rentrer.
Je suis bien d'accord, dit Frodo. Mais on ne peut rentrer plus rapidement si l'on doit voir Bilbo. Je vais d'abord à Fondeval, quoi qu'il arrive.
Oui, je crois que vous feriez mieux, dit Gandalf. Mais hélas pour Saruman, je crains qu'il n'y ait plus rien à en tirer. Il est complètement décrépit, mais je ne suis pas sûr que Barbe-Bois ait raison. Je le crois encore capable de quelques vilains tours par pure mesquinerie.
Le lendemain, ils passèrent en Dunland du Nord, un agréable pays de verdure, bien qu'à présent dépeuplé. Septembre arriva avec ses jours dorés et ses nuits d'argent, et ils chevauchèrent en toute tranquillité jusqu'à la rivière aux cygnes qu'ils franchirent par le vieux gué à l'est des chutes où elle plongeait subitement dans les basses terres. Loin à l'ouest, une brume s'étendait sur les mares et les îlots parmi lesquels elle serpentait jusqu'aux griffleurs. Là nichait une multitude de cygnes dans un pays de roseaux. Ils passèrent donc en Eregion, et un beau matin parut enfin, luisant au-dessus de brumes chatoyantes. Et regardant depuis leur campement sur une colline basse, les voyageurs virent s'éclairer trois hautes cimes qui s'élevaient dans le ciel de l'est à travers des nuages flottants. Caradhras, Celebdil et Fanuidol. Ils étaient parvenus à la hauteur des portes de la Moria. Ils demeurèrent à cet endroit 7 jours durant, car voici qu'approchait le moment d'une autre séparation difficile. Celeborn, Galadriel, et leur suite se tournerait bientôt vers l'est pour franchir la porte de Corne Rouge et ainsi redescendre par l'escalier de Ruisselombre jusqu'à l'Argentine, aux frontières de leur pays. Ils avaient jusque-là emprunté les chemins de l'ouest, car ils avaient maintes choses à discuter avec Elrond et Gandalf. Mais ici encore, ils restèrent longtemps en conversation avec leurs amis. Souvent, bien après que les hobbits eurent succombé au premier sommeil, ils s'asseyaient ensemble sous les étoiles à se remémorer les âges passés et toutes les joies et les épreuves qu'ils avaient connues dans le monde, ou à tenir conseil sur les jours à venir. Si quelques voyageurs étaient passés par là, ils n'auraient pu voir ni entendre grand-chose, tout au plus une vision de forme grise sculptée dans la pierre en mémoire de gens oubliés, perdus à présent au milieu de terres inhabitées. Car ils ne bougeaient pas, non plus qu'il ne parlait avec la bouche, regardant d'esprit à esprit. Et seuls leurs yeux lumineux étincelaient et s'animaient au va-et-vient de leurs pensées. Mais tout finit par être dit, et ils se séparèrent à nouveau pour un temps, jusqu'à ce qu'il fût l'heure pour les trois anneaux de passer au-delà. Les gens de la Lorienne s'enfurent à cheval vers les montagnes, leurs capes grises se fondant rapidement parmi les pierres et les ombres. Et ceux qui allaient à Fandeval s'assirent sur la colline pour regarder, lorsqu'un éclair s'éleva tout à coup des brumes grandissantes. Après quoi, ils ne virent plus rien. Frodo sut que c'était Galadriel, élevant son anneau en signe d'adieu. Sam se détourna et dit en un soupir « Que j'aimerais donc retourner en Lorienne, moi aussi. » Enfin, un soir, ils arrivèrent par-delà les hautes landes subitement, comme le remarquaient toujours les voyageurs, au seuil de la profonde vallée de Fendeval, et ils virent clignoter les lampes de la maison d'Elrond loin en bas. Et ils descendirent, franchirent le pont et arrivèrent aux portes, et toute la maison s'illumina et retentit de joyeux chants pour saluer le retour d'Elrond. Avant toute chose, sans s'être nourris ni lavés, ni même débarrassés de leur cape, les hobbits partirent à la recherche de Bilbo. Ils le trouvèrent seul, enfermé dans sa petite chambre. Elle était jonchée de vieux papiers, de plumes et de pinceaux. Mais Bilbo était assis dans un fauteuil devant une belle petite flambée. Il semblait très vieux, mais paisible, et il somnolait. À leur arrivée, il ouvrit les yeux et leva la tête.
« Bonjour, bonjour, »
dit-il.
« Ainsi vous voilà revenu, et à la veille de mon anniversaire en plus, comme c'est malin. Pensez-vous, j'aurai bientôt 129 ans, et dans un an, si l'on me prête vie, je rejoindrai le vieux Touk. Je voudrais bien le surpasser, mais on verra. »
Après avoir célébré l'anniversaire de Bilbo, les quatre hobbits restèrent quelques jours à Fendeval et ils s'assirent longuement avec leur vieil ami qui, désormais, passait le plus clair de son temps dans sa chambre, sauf à l'heure des repas. En règle générale, il demeurait fort ponctuel à ce chapitre, manquant rarement de s'éveiller à temps pour passer à table. Tour à tour, assis au coin du feu, ils lui racontèrent tout ce qu'ils purent se rappeler de leur voyage et de leurs aventures. Bilbo, au début, fit semblant de prendre des notes, mais il s'endormait souvent, et il disait à son réveil
« Splendide, merveilleux, mais où en étions-nous »
Alors il reprenait l'histoire au moment où il avait commencé à s'assoupir. La seule chose qui parut vraiment l'exciter et susciter toute son attention fut le couronnement d'Aragorn et le récit de son mariage.
« J'ai été invité aux noces, bien sûr, »
dit-il,
« et je les attendais depuis bien longtemps. » Mais allez savoir, le jour venu, je me suis trouvé tellement débordé et faire ces bagages peut être si assommant.
Près de 15 jours s'étaient écoulés quand Frodo regarda à sa fenêtre et vit qu'il avait gelé cette nuit-là, et que les toiles d'araignée s'étendaient en filets blancs. Alors il sut tout à coup qu'il devait partir et faire ses adieux à Bilbo. Le temps demeurait calme et beau, après l'un des plus merveilleux étés dont on put se souvenir. Mais octobre était venu, le ciel n'allait pas tarder à se brouiller, la pluie et le vent reprendraient de plus belle, et il y avait encore une longue route à faire. Mais ce n'était pas vraiment ce qui l'inquiétait. Il sentait qu'il était temps de retourner dans le comté. Sam partageait ce sentiment. Encore la veille au soir, il lui avait dit
« Eh bien, monsieur Frodo, on a voyagé un sacré bout et on a vu pas mal de choses, mais je me dis qu'on n'a jamais trouvé meilleur endroit qu'ici. On y trouve un peu de tout, si vous me comprenez. Le comté, le bois doré et le Gondor, les maisons de roi et les auberges, le pré et la montagne, tout ça en même temps. Mais quelque part, je sens qu'on ferait mieux de partir bientôt. Je me fais du souci pour mon ancêtre, pour tout vous dire. »
Oui, un peu de tout, Sam, sauf la mer,
lui avait répondu Frodo. Et il se le répéta à présent.
Sauf la mer.
Ce jour-là, Frodo alla trouver Elrond et il fut convenu qu'il partirait le lendemain matin. Et Gandalf dit, pour leur plus grand bonheur,
« Je crois que je viendrai aussi, du moins jusqu'à Brie. J'aimerais voir Fleur de Beurre. »
Dans la soirée, ils allèrent dire au revoir à Bilbo.
« Eh bien, s'il faut que vous partiez, il le faut, »
dit-il.
« Je suis navré, vous allez me manquer. C'est bon de savoir simplement que vous êtes dans les parages, mais je me fais de plus en plus somnolent. »
Puis, il donna sa chemise de mithril et son épée d'art en cadeau à Frodo, oubliant qu'il l'avait déjà fait. Et il lui offrit également 3 livres de traditions qu'il avait composés à divers moments, tous dans son écriture en pâte de mouche. Leur dos rouge portant l'inscription suivante « Traduction de l'elfique par Bilbo Bessac ». À Sam, il remit une petite bourse d'or.
« Presque la dernière goutte de la cuvée de Smaug, » dit-il. « Ça pourra t'être utile si tu penses à te marier, Sam. »
Sam rougit.
« Je n'ai pas grand-chose pour vous, jeunes gens, » dit-il à Mary et à Pipin, « sauf de bons conseils. »
Et quand il leur en eut donné un bel échantillon, il ajouta une dernière chose à la manière du comté.
« Prenez garde à ce que votre tête ne devienne trop grosse pour votre chapeau. Mais si vous n'arrêtez pas bientôt de grandir, chapeau et vêtements ne seront plus à portée de votre escarcelle.
« Puisque vous essayez de battre le vieux Touk, » dit Pipin, « je ne vois pas pourquoi nous n'essayerions pas de battre Fier Taureau. »
Bilbo rit, et d'une poche de sa veste, il sortit deux belles pipes à bec de perles au fourneau cerclé d'argent, finement ouvré.
« Pensez à moi quand vous vous en servirez, » dit-il. « Elles ont été faites pour moi par les elfes, mais je ne fume plus à présent. »
Puis soudain, sa tête tomba et il s'assoupit un peu. Et quand il se réveilla, il dit
« Bon, où en étions-nous ? »
« Oui, bien sûr, les présents. Mais j'y pense, Frodo. Qu'est-il arrivé à mon anneau, celui que tu as emporté ?»«
Je l'ai perdu, Bilbo, mon cher, » répondit Frodo. « Je m'en suis débarrassé, tu vois ?»
« Quel dommage !» dit Bilbo. « J'aurais aimé le revoir. Mais non, suis-je bête. C'est pour ça que tu y allais, non, pour t'en débarrasser. Mais tout cela est tellement compliqué, car il y a tant de choses qui semblent s'être mêlées à l'affaire. Les ambitions d'Aragorn, le Conseil Blanc, le Gondor et les Cavaliers, les Sudrons et les Olifants. Tu en as vraiment vu un, Sam ? Et les cavernes et les tours et les arbres dorés, je ne sais quoi encore. De toute évidence, j'ai pris une route beaucoup trop directe en revenant de voyage. Je me dis que Gandalf aurait pu me faire visiter quelques endroits. Mais alors, la vente aux enchères se serait terminée avant mon arrivée et j'aurais eu encore plus d'ennuis sur les bras. De toute manière, il est trop tard à présent. Et puis, je trouve qu'il est beaucoup plus confortable de rester assis ici à vous entendre. « Le feu est très agréable ici, et la nourriture est très bonne. Et il y a des elfes quand on en a envie. Que demander de plus ?»« La route se poursuit sans fin, qui a commencé à ma porte, et depuis m'a conduit si loin, d'autres maintenant elle emporte. Lancé dans un nouveau voyage, mets-moi enfin les pieds fourbus. Je gagne l'auberge au village. » Trouvez le repos qui m'est dû. »
Et comme il marmonnait les derniers mots, sa tête tomba sur sa poitrine et il s'endormit aussitôt. Le crépuscule enveloppa la pièce et la lueur du feu se fit d'autant plus vive. Et ils observèrent Bilbo qui dormait et virent que son visage était souriant. Ils restèrent quelque temps assis en silence. Puis Sam, regardant autour de la pièce, étudiant les ombres qui dansaient sur les murs, murmura pensivement
« Savez-vous, monsieur Frodo, je crois pas qu'il ait beaucoup écrit pendant notre absence. Il écrira jamais notre histoire maintenant. »
Alors Bilbo ouvrit un œil, presque comme s'il eût entendu. Puis il se secoua.
« C'est que je deviens tellement somnolent, voyez-vous, »
dit-il.
« Et quand j'ai le temps d'écrire, la poésie est vraiment la seule chose dont j'ai envie. » « Je me demande, Frodo, mon brave garçon, si cela t'ennuierait outre mesure de mettre un peu d'ordre dans mes affaires avant de t'en aller. Rassembler toutes mes notes et tous mes papiers, et mon journal aussi, et les prendre avec toi si le cœur t'en dit. Tu vois, je n'ai pas beaucoup de temps pour la sélection, l'agencement et tout ça. Fais-toi aider par Sam, et quand tu auras un peu dégrossi le tout, reviens me voir pour que je regarde. » Je ne serai pas trop tatillon.
Bien sûr, je m'en charge, dit Frodo. Et bien sûr, je reviendrai très vite. Il n'y aura plus aucun danger. Il y a maintenant un vrai roi, et il remettra bientôt les routes en état.
Merci, mon garçon, dit Bilbo. C'est pour moi vraiment un très grand soulagement.
Et là-dessus, il se rendormit. Le lendemain, Gandalf et les hobbits prirent congé de Bilbo dans sa chambre car il faisait froid dehors. Puis ils dirent adieu à Elrond et à toute sa maison. Tandis que Frodo se tenait sur le seuil, Elrond lui souhaita bon voyage, et il le bénit, et dit « Je crois, Frodo, que vous n'aurez peut-être pas besoin de revenir, à moins que ce ne soit très bientôt. Car environ à ce temps de l'année, quand les feuilles seront d'or et tout près de tomber, recherchez Bilbo dans les bois du comté, je serai avec lui. » Aucun autre n'entendit ces mots, et Frodo les garda pour lui-même.